Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens. Je suis encore avec mon cousin Ben.
Salut Maxime.
Salut Ben.
Content d'être avec toi. Enfin, ouais, pas vraiment avec toi en fait,
voir à distance. À distance, hein, mais... ouais.
Voilà, c'est mieux que rien.
Alors, le thème de ce podcast, on y rentre directement, c'est Christ dans l'Ancien Testament. Un sujet vaste, hein, beaucoup de livres ont été écrits là-dessus. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, Ben, est-ce que c'est légitime de chercher Christ dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui nous donne l'intérêt, l'idée de le faire? Qu'est-ce qui nous donne le droit de le faire, en fait?
Ouais, super. Je suis vraiment content de parler de ce sujet. Je pense que c'est vraiment encourageant, ça me fait du bien. Et je pense que c'est vraiment utile et indispensable de voir ça dans sa vie chrétienne, de partir avec ce fondement-là, de comment l'Ancien Testament pointe vers Christ. Parce que sinon, on est vraiment en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces histoires du passé, de toutes ces généalogies, de tous ces récits de batailles, de guerres, de toutes ces choses-là, de toutes ces personnes-là? Quel rapport est-ce qu'ils ont avec ma vie chrétienne, avec la personne de Jésus, avec le message qu'il a enseigné? Et c'est pas juste qu'on veut dire qu'on doit voir Christ dans l'Ancien Testament parce que pour donner un sens à l'Ancien Testament, mais c'est qu'en fait c'est le sens de l'Ancien Testament. Christ est la clé qui permet de comprendre l'Ancien Testament, et c'est lui-même qui l'a dit. Je cite juste deux passages là à ce sujet-là qui sont souvent cités par rapport à ce sujet-là. Le premier, c'est Jean 5 au verset 39, quand Jésus, il parle aux Juifs de l'époque et il dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Quand il parle des Écritures, ici, il parle de l'Ancien Testament, les récits que les Juifs reconnaissaient comme venant de la part de Dieu. Et il dit « Mais c'est elles, les Écritures, qui rendent témoignage à mon sujet. » Donc il dit que l'Ancien Testament, un de ses buts, c'est de rendre témoignage à la personne de Jésus. Et il est encore plus clair dans Luc, à la fin de l'évangile de Luc, au verset 24, après avoir eu cette conversation avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où les disciples d'Emmaüs ne savaient pas que c'était Jésus, et Jésus leur parcourait les Écritures pour leur montrer comment tout était centré sur lui. Et alors je recherche le passage en vous disant ça, mais voilà, c'est ce qu'il dit au verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc là, c'est Jésus qui parle à tous ses disciples, en fait, pas juste aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il dit qu'il y a des choses qui sont écrites à son sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc tout l'Ancien Testament a pour but de pointer vers la personne de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment saisir. Et là, j'ai le verset où Jésus il parle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il dit « En commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ça devait être une discussion passionnante où Jésus parcourait l'Ancien Testament en montrant mais comment tous ces récits-là de l'Ancien Testament avaient pour but de pointer vers la personne de Jésus, de parler de sa mort, de sa résurrection et tout ce qui était annoncé à son sujet-là. Donc c'est pas simplement qu'on a le droit de voir Christ dans l'Ancien Testament, mais c'est qu'on a le devoir dans un sens. Si on veut comprendre l'Ancien Testament, il faut voir comment il nous pointe vers la personne de Jésus.
Ouais, c'est des précisions précieuses, je trouve, parce qu'on pourrait un peu chercher le Christ dans l'Ancien Testament comme on y chercherait un détail. Hein, tout à l'heure, avant de préparer le podcast, on parlait de la BD Où est Charlie? et quand on cherche Christ dans l'Ancien Testament, on ne cherche pas le détail en coin de page sur lequel il faut vraiment forcer les yeux pour le trouver. On parle vraiment du personnage principal de l'Ancien Testament, en fait, du thème. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce podcast, justement, vous montrer, vous prouver ça, que Christ est bien présent dans l'Ancien Testament par quelques exemples. Tu penserais à quel exemple en premier, Benjamin?
Ouais, peut-être un exemple qui vient assez rapidement en tête. C'est ce qu'on appelle la typologie. Alors on va pas être trop long là-dessus parce qu'on pourrait passer un épisode entier là-dessus, mais je donne juste quelques réflexions et avec plaisir pour que tu ajoutes 2-3 trucs. Mais quand on parle de la typologie, c'est que c'est un mot pour parler de comment dans l'Ancien Testament il y a des personnages qui sont des types de Christ, on appelle ça. C'est-à-dire un peu des personnes qui sont des Christ en miniature sur certains aspects et qui ont pour but de pointer vers une réalité plus grande que Jésus accomplit. Un exemple qui est souvent donné, c'est dans Romains 5 au verset 14, pardon, il est parlé d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Et là, littéralement, il est dit qu'il est le type de celui qui devait venir. Donc on voit que Adam est un type de Christ. Et tout ce chapitre-là de Romains 5 montre comment Adam, il y a des choses qui sont vraies de lui, qui sont vraies de Jésus, mais ce qui est vrai de Jésus, c'est vrai de manière encore plus grande et encore plus forte. Donc c'est un peu comme si on compare une voiture miniature, une voiture un peu un jouet, voilà, la BMW en jouet, et puis la vraie BMW. Bah, l'un n'a rien à voir avec l'autre, il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre et on voudrait pas rester avec le jouet mais on voudrait rentrer dans la BMW, la démarrer et rouler avec. Mais en même temps il y a des correspondances entre les deux et quand on voit la version miniature, bah, on apprend certaines choses et on voit certaines choses par rapport à la version plus grande. Et donc dans tout l'Ancien Testament, non seulement Adam mais d'autres aussi, on pourrait parler du roi David, on pourrait parler de d'autres, c'est des personnages qui, on voit certaines caractéristiques qui sont vraies à propos d'eux et on voit comment c'est encore plus vrai à propos de Jésus quand lui il vient sur terre, quand lui il accomplit son ministère et on se dit « Ah, il est enfin venu apporter la réalité. Il est enfin venu, voilà, le vrai personnage est arrivé. On était avec le jouet, on était avec la BMW, mais maintenant on a la vraie voiture et c'est beaucoup mieux et c'est bien meilleur. »
D'ailleurs, Benjamin parle de jouet et en fait c'est une image presque néo-testamentaire, alors on va pas aller jusque-là, mais le Nouveau Testament parle de l'Ancien Testament comme d'un livre pédagogique, un temps de préparation dans lequel le peuple de Dieu était comme à son enfance avant d'arriver aux vraies choses. Donc il y a cette idée de jouet en fait, de réplique enfantine, le temps que le peuple de Dieu apprenne et soit éduqué par ce moyen. Tu pensais à d'autres types où je t'ai coupé ?
Non, bah, y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait mettre en avant. Peut-être juste un rapidement pour rendre ça un peu plus clair si c'est quelque chose que vous découvrez. Là encore, c'est quelque chose qui est assez explicite, mais c'est Jésus lui-même qui parle de ça dans Jean 3, quand il a cette conversation avec Nicodème. Il dit « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et donc là, c'est Jésus lui-même qui fait une correspondance entre un récit de l'Ancien Testament et lui-même et son œuvre. Et donc c'est ce récit où le peuple d'Israël a encore une nouvelle fois péché contre Dieu, et Dieu prononce un jugement. Et la manière d'échapper à ce jugement, la mort, c'était de regarder un serpent qui était élevé en l'air, un serpent d'airain que Moïse avait fait et qui était élevé en l'air, et tous ceux qui regardaient à ce serpent avaient la vie. Ils continuaient à vivre. Et Jésus dit, mais c'est la même chose à propos de moi. Je vais être élevé, je vais être mis en avant pour que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Et là, on voit la relation du type où ce qui est vrai de Moïse et du serpent, c'est vrai encore plus de Jésus. Parce que c'est pas juste qu'il a été élevé, c'est qu'il a été crucifié. Et c'est pas juste qu'on a la vie physique, mais c'est qu'on a la vie éternelle et le pardon des péchés. Donc ça, c'est un autre exemple qu'on pourrait dire par rapport à un type, à la typologie. Je sais pas si toi tu penses à d'autres trucs ou si tu veux nous donner une autre manière ou une autre façon légitime de voir Jésus dans l'Ancien Testament.
Ouais, ce que je pensais par rapport au type, c'est que parfois certains éléments de l'Ancien Testament sont des types à plusieurs niveaux. Ce que je veux dire par là, c'est que le roi David, en tant que personnage, est par exemple un type du Christ, mais il l'est aussi de manière plus particulière à des épisodes précis de sa vie. Par exemple, lorsqu'il obtient la victoire pour tout son peuple en tuant Goliath, bah, il est un type du Christ qui a la victoire pour tout son peuple, mais à ce moment précis. Et il l'est aussi à d'autres moments en tant que roi, etc. Donc il y a l'idée de type du Christ, mais qu'ils le sont dans des détails et de façon plus générale aussi. Donc ça, c'est aussi une autre richesse de laquelle... à laquelle on peut être attentif dans l'Ancien Testament. C'est pas juste ok, j'ai coché la case, j'ai repéré que David c'était un type du Christ. C'est être attentif aux détails parfois à tel moment de sa vie, de manière plus particulière, il va être type du Christ.
Ouais, effectivement. Ouais.
Un autre élément auquel je pensais pour Christ dans l'Ancien Testament, et c'est peut-être celui qui me touche le plus en ce moment, c'est sur la loi et la grâce dans l'Ancien Testament. Ce que je veux dire par là, c'est la présence dans l'Ancien Testament de textes clairs sur notre besoin de pardon, sur notre incapacité à accomplir la loi et sur notre besoin de la grâce. Et ça annonce le Christ parce que ça en montre la nécessité. Il y a besoin de quelqu'un qui vient accomplir la loi pour nous, de quelqu'un qui nous assure la grâce de Dieu. Je pense à deux textes là que j'ai en tête. Il y a Ésaïe 6 qui me vient en tête, où on voit le prophète Ésaïe qui a une vision de Dieu. Où il est déclaré que Dieu est saint, saint, saint. Et le prophète Ésaïe dit « Maudit, je suis maudit, il maudit parce qu'il a les lèvres impures, il habite au milieu d'un peuple impur, il se sent incapable de tenir en face du Dieu saint qu'il vient de voir. » Et on voit ensuite Dieu qui purifie Ésaïe, qui dit « ton péché est expié », et qui utilise toute une symbolique pour le représenter et lui témoigner que son péché est purifié. Et ça nous montre que même des personnages comme Ésaïe, des prophètes de Dieu, ont besoin de la purification. Eux-mêmes ne sont pas le Messie attendu, mais ils ont besoin d'être purifiés. Et du coup, ça nous met comme l'eau à la bouche, ça nous met l'attente de quelqu'un qui, lui, n'aura pas besoin de dire « je suis impur », mais qui purifiera les autres. Un autre texte auquel je pense, c'est le psaume 24, qui nous parle de Dieu comme créateur, qui loue Dieu, et ensuite qui pose une question intéressante qui se retrouve aussi au psaume 15 ou en Ésaïe 33, c'est qui est digne, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et on nous décrit quelqu'un qui a les mains pures, qui a les lèvres sans mensonge, qui a le cœur parfait, innocent. Et on se rend bien compte, en fait, si on regarde cette description, qu'on ne remplit pas ces conditions. Et le psaume se conclut, il ne s'arrête pas là, il se conclut sur l'entrée du roi de gloire dans le ciel. Donc c'est un psaume, encore une fois, qui nous montre que nous, on n'est pas digne de monter à la montagne de l'Éternel, on n'est pas digne d'être, oui, d'approcher de Dieu. Mais qu'il y en a un roi de gloire pour qui les portes sont grandes ouvertes, qui peut rentrer au milieu des acclamations. Donc c'est pas des textes qui nous annoncent précisément le nom ou le lieu de naissance du Christ, mais c'est des textes qui nous montrent plutôt notre besoin d'un Messie, notre besoin d'un Sauveur.
Et ouais, non, et c'est super que tu mettes ça en avant. Je pense que c'est je sais pas si ça, dans quelle catégorie ça rentrerait, mais c'est un des moyens par lequel on vient naturellement à Jésus dans l'Ancien Testament. En étant confronté à des passages qui mettent en avant un trou que seul Christ peut combler. Et je pense qu'on voit ça de manière particulière dans l'Ancien Testament avec la gravité du péché humain, et avec la récurrence du péché humain et juste l'incapacité de l'homme à vraiment obéir à Dieu. Je sais pas, on a étudié là récemment avec mon église Genèse 1 à 11 en étude biblique, et on voit juste, c'est juste terrible, Dieu qui crée les êtres humains, ils se mettent à pécher, et après c'est juste de pire en pire, et c'est péché sur péché, et ça retombe, et ça retombe, et ça retombe, et on se dit, mais quand est-ce que quelqu'un va enfin venir libérer l'être humain du péché? Où on pense au livre des juges, où il y a juste ce cycle qui se répète, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et ce qui semble bon aux yeux des hommes, c'est vraiment mauvais, et c'est vraiment dégoûtant, et on voit un grand trou qui est là dans l'Ancien Testament, qui est géant, et qui nous fait dire, mais on veut que quelqu'un vienne, on veut que quelqu'un règle ce problème, on veut que quelqu'un rende obéissant le cœur de l'homme et nous libère de la culpabilité qu'on a. Et enfin, on voit Jésus arriver dans le Nouveau Testament, et c'est juste comme un grand ouf de soulagement, c'est juste comme le héros qui rentre en scène avec la musique de la Champions League qui résonne, et voilà, les trompettes, etc. Et donc ça, je pense, c'est un moyen où on peut, en étant confronté à l'Ancien Testament et à différents passages, voir le trou qui est mis en avant, et comment seul Christ peut combler ce trou.
D'ailleurs, j'y résiste pas, petite minute culturelle, la musique de la Champions League, elle est inspirée d'un hymne de Handel, qui était un compositeur protestant, et c'était l'hymne qui représentait la coronation, c'est-à-dire le sacre des rois anglais, et dont les paroles sont le chapitre de la Bible où David reçoit la couronne. Je referme la parenthèse.
Excellent, trop intéressant.
T'as parlé des gouffres, un peu des trous plutôt, dans l'Ancien Testament qui ne demandent qu'à être comblés par le Christ. Et je pense à un encore dans cette catégorie, un texte, c'est le psaume 32, le psaume 51, le péché de David. Et si on est attentif à ce récit, donc c'est l'adultère de David et le meurtre du mari de la femme avec qui il a commis adultère. On lit ça, je crois, dans 1 Samuel 11 ou 2 Samuel 11. En tout cas, c'est un passage où c'est assez terrible. On voit le roi d'Israël qui semblait un roi selon le cœur de Dieu, qui semblait peut-être le plus ressembler au Messie promis, tomber dans un péché vraiment terrible et entraîner toute sa famille. Et la loi de Moïse ne prévoyait pas de pardon pour ce péché. C'était juste la peine de mort pour les adultères et les meurtriers. Il n'y avait pas de sacrifice pour cela, et David le sait bien. Et c'est pour ça qu'il écrit dans le psaume 51 une demande de pardon où il est vraiment affligé par son péché. Et c'est pour ça que dans le psaume 32 aussi, il magnifie le pardon de Dieu. Et Romains 3 parle de ça, il parle des péchés qui étaient restés impunis dans l'Ancien Testament. Il y a comme ce problème de l'Ancien Testament de personnes comme David qui sont pardonnées. Et on ne sait pas trop comment Dieu peut pardonner des personnes comme ça alors que leurs péchés sont mauvais, méritent d'être punis. Donc ça, c'est encore des trous qui appellent le Christ et son œuvre à la croix en particulier.
Et peut-être ça nous amène à un autre moyen de où l'Ancien Testament nous pointe vers Christ. C'est en parlant un peu de théologie biblique. Alors on va prendre des pincettes en parlant de ça avec Maxime et on va pas rentrer dans trop de discussions. On pourrait faire un podcast à l'occasion là-dessus, enfin, de 1h30 peut-être. Mais en voyant comment différents thèmes dans l'Écriture sont développés au fur et à mesure que le récit biblique avance, et de voir comment c'est Jésus qui a la clé d'accomplissement de tous ces thèmes-là. Juste un exemple, ou deux exemples peut-être auxquels je pense, le thème du sacrifice. On voit que dès le début de l'histoire, on voit que les sacrifices sont nécessaires, dès la Genèse, sont nécessaires pour expier les péchés. Mais on voit, et comme tu le disais, ces sacrifices sont imparfaits, même alors que l'histoire avance, même dans le Lévitique, même dans tout ça, il y a des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Et on voit que les sacrifices doivent être répétés et répétés et répétés, et ils ne peuvent jamais vraiment pardonner. Et puis on voit Jésus qui arrive en scène et qui est le sacrifice parfait, et donc on voit comment ce thème est accompli en la personne de Jésus. Et c'est d'ailleurs un des grands thèmes que l'Épître aux Hébreux met en avant, en montrant comment Jésus est le sacrifice ultime. Où on pourrait penser à l'exemple du temple, la présence de Dieu. Le temple, c'est ce qui manifeste la présence de Dieu, et on voit que cette présence, elle était là dans l'Ancien Testament, mais elle était limitée. Mais quand Jésus vient sur terre, Jean 1 nous dit qu'il vient tabernacler parmi nous, il vient habiter parmi nous, il vient mettre sa tente, il vient manifester la présence de Dieu. Donc ça, c'est un moyen, je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça, mais de voir comment des thèmes sont développés au fur et à mesure de l'Écriture, ça nous amène naturellement à Christ.
Ouais, c'est vraiment un moyen qui peut nous occuper pour une vie entière d'études. Mmh. Et je pense que c'est important de le préciser, en effet, parce qu'on vient de parler des trous qui étaient un peu laissés de l'Ancien Testament, des besoins un peu, des points d'interrogation qui attendaient la réponse.
Ouais.
Et en fait, l'Ancien Testament n'a pas laissé les croyants de l'époque simplement avec ces questions, mais il leur a laissé comme entrevoir la réponse, comme tu l'as dit, de manière temporaire et imparfaite, par les sacrifices, le temple, plein de cérémonies dans l'Ancien Testament qu'on pourrait étudier en détail, qui à leur manière annoncent le Christ.
Mmh.
Et les types aussi sont bien sûr un moyen par lesquels les croyants de l'Ancien Testament ont pu déjà entrevoir le Christ. Et un troisième moyen par lequel les croyants de l'Ancien Testament ont pu avoir des réponses à ce point d'interrogation, c'est les prophéties. Je ne sais pas si tu en as en tête en particulier, Ben, mais moi je pense évidemment à celle qui nous annonce les lieux de naissance du Christ, celle qui nous annonce comment il va mourir, dans les psaumes 22, le psaume 22, Ésaïe 53, c'est vraiment les classiques.
Ouais.
Est-ce que tu en as d'autres en particulier en tête qui te marquent?
Non, je pense que c'est super hein, ce que tu dis, psaume 22, c'est super clair par rapport aux souffrances de Christ, non seulement les souffrances, mais aussi la résurrection, sa victoire, et on voit comment Christ accomplit ça. Ésaïe 53, qui est juste super clair, et on peut pas ne pas lire ça sans voir Christ. Est-ce que c'est juste de dire ça? Et je sais pas, il y a peut-être un pas en trop dans ma phrase, mais en gros quand on lit ça on doit voir Christ, et toutes les prophéties effectivement que par rapport à Jésus, par rapport au fait que son vêtement ne sera pas déchiré, par rapport à tout ça, c'est ça pointe vers Jésus. Et peut-être un autre, c'est lié à ça hein, mais pour avancer un peu et pour te laisser après répondre à la troisième question, mais il y a aussi les citations du Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament et applique à Jésus, je pense que ça nous montre comment on doit lire l'Ancien Testament. Je pense à Marc 1, au verset 3, où il est dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Et c'est une citation de Ésaïe 40, où il est dit que Dieu va venir sur terre, qu'il faut préparer la voie du Seigneur, que ça va être magnifique, ça va être merveilleux. Et en fait, Marc applique ça à Jésus, c'est Jésus qui fait ça. Et donc ça nous montre comment Ésaïe 40 pointe vers la personne de Jésus. Et c'est aussi une manière naturelle et utile et indispensable de lire l'Ancien Testament.
Ouais. S'il vous plaît, n'étudiez jamais un texte du Nouveau Testament sans aller voir le texte cité.
Mmh.
Ce serait dommage, c'est comme lire un livre aujourd'hui et ne pas aller lire les notes de bas de page quand on comprend pas un passage, elles sont là pour expliquer. Et là, peut-être qu'on verra pas tout de suite ce à quoi voulait faire allusion le texte de l'Ancien Testament, mais à force de faire ça, on va commencer à voir un peu comment le Nouveau Testament lisait l'Ancien Testament, et ça peut nous aider à nous mettre à son école, ça enrichira notre lecture de l'Ancien Testament.
Ouais. Peut-être je te pose la troisième question, Max, vu que moi j'ai beaucoup parlé, pour qu'on t'entende. Donc pour terminer, juste quels seraient les dangers qu'il y aurait dans cela, en faisant ça, en essayant de trouver Christ dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a des dangers, et si oui, quels seraient les dangers auxquels on pourrait être confronté?
Ouais, j'ai pensé à trois dangers et les deux premiers, je vais passer rapidement dessus parce que je pense que c'est le troisième sur lequel on veut s'attarder un peu plus. Mais le premier danger, ça serait peut-être face à tout ça, d'aller chercher trop dans les détails et de perdre de vue la grande image. Alors, le conseil pour remédier un peu à ça, c'est ce que tu as dit, d'étudier des thèmes dans toute la Bible. Plutôt que d'aller chercher Christ dans le recoin d'un verset, sur une traduction douteuse ou des choses comme ça. Concentrons-nous sur le grand thème du livre qu'on étudie, sur la grande caractéristique du personnage, plutôt que sur le petit détail. Voilà, la Bible, c'est pas un livre de mystère, c'est une révélation, c'est pas quelque chose de caché.
Ouais.
Et donc on ne doit pas penser que le Christ se cache dans des virgules, mais comme si Christ a pu le montrer à ses disciples dans toutes les Écritures, c'est que c'est quand même quelque chose de flagrant. Y a des choses qui sont peut-être plus fines et qu'on comprend seulement avec des années de méditation et d'études, mais dans tous les cas, se concentrer déjà sur les grandes images, c'est un bon début.
Ouais.
Deuxième erreur, du coup, c'est de lire l'Ancien Testament sans Christ, et je pense que vous êtes convaincus, j'espère en tout cas, après nous avoir écouté, que c'est pas la bonne manière de faire, de simplement lire la loi de l'Ancien Testament et dire « ah bah voilà comment on doit agir », de lire les histoires et de dire simplement « ah c'était un grand héros, c'était bien », ou d'être impressionné par les miracles. Il y a un temps pour admirer les personnes de l'Ancien Testament, pour noter les commandements, ce que Dieu veut de nous, mais ça doit jamais se faire sans contempler aussi le Christ qui a accompli cette loi, sans contempler le Christ qui est le David parfait, qui est le représentant parfait vers lequel pointent ces types. Ça serait dommage de s'y arrêter, en fait. On ferait la même erreur que les Juifs de l'époque de Jésus,
ouais,
qui s'arrêtaient à ces choses, aux cérémonies de la loi, aux sacrifices, et qui avaient oublié que c'était des poteaux indicateurs, en fait, qui restaient accrochés aux poteaux et qui n'allaient jamais dans la direction. Et la troisième erreur auquel j'ai pensé, auquel on a pensé, c'est l'erreur entre allégorie et typologie. Alors, c'est-à-dire, on vous a parlé de type là jusqu'à maintenant, et il y aurait une lecture de l'Ancien Testament qu'on pourrait appeler allégorique et qui me semble pas être conforme à la façon dont le Nouveau Testament lit l'Ancien Testament. Ce qu'on appellerait une allégorie, ça serait de prendre un détail de l'Ancien Testament et indépendamment de ce que le texte nous indique, simplement parce que nous, ça nous fait penser à Christ, parce qu'on trouverait que ça ferait une belle image pour illustrer le Christ, eh ben, on va y chercher à y voir Jésus. Alors que le texte ne semble pas l'indiquer, alors que le Nouveau Testament ne le cite jamais pour ça, alors que c'est un thème qui n'est pas repris dans la suite de l'histoire, mais c'est un détail qui nous semble sympathique un peu pour parler du Christ, et du coup on le relève, on en fait tout un truc. C'est pas une approche sage, et en fait, je dirais même que ça pourrait être une approche incrédule. Je veux pas être trop dur par rapport à ça, mais comme si l'Ancien Testament avait besoin d'être enrichi, comme s'il n'était pas déjà assez riche en allusions au Christ, en enseignement sur le Christ, comme si on avait besoin d'y mettre des images en plus, quoi.
Ouais. Non, effectivement, et ça, je pense, c'est le cas, justement, comme tu disais, quand on s'intéresse aux détails qui sont pas essentiels au texte et qu'on veut, voilà, trouver un moyen de... de où est Charlie, un peu en mode où est Charlie, ou de faire rentrer Jésus là-dedans, ou de se dire voilà, on veut que Jésus soit mis en avant, et c'est pas dans enfin on veut pas tomber là-dedans, et du coup un moyen d'éviter ça, c'est de je pense que c'est important ce que tu disais, de prendre les livres dans leur ensemble, surtout pour l'Ancien Testament. On veut faire ça pour chaque livre de la Bible, hein, de voir comment chaque livre de la Bible a un message unique, particulier, et c'est seulement en prenant le livre dans son ensemble, chaque verset dans son chapitre dans le livre, qui permet de voir cela. Mais c'est particulièrement important dans l'Ancien Testament, où si on s'arrête juste sur deux versets, ou trois versets, ou quatre versets, mais qu'on n'a pas la vue d'ensemble du livre et de ce vers quoi le livre nous pointe, ce sera incomplet. Et donc par exemple, si on lit 1 et 2 Samuel, qui sont un seul livre à la base, mais juste en s'arrêtant au verset et sans prendre la vue plus large, de voir comment ces livres sont là pour nous montrer qu'il faut un bon roi qui règne sur Israël, il faut un roi parfait qui règne sur Israël, et aucun des rois humains ne sont capables de régner parfaitement sur Israël, et ben on va tomber dans une lecture moraliste de ce livre, ou allégorique, ou voilà, en faisant venir des choses vers nous qui ne sont pas forcément là. et on va passer à côté de Jésus. Et donc, on a besoin, je pense, quand on lit l'Ancien Testament, de faire des moments de dézoom où on va prendre du haut, on va prendre du recul et avoir la vue d'ensemble et voir mais où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on est dans le récit biblique. Et donc, la Bible va de la Genèse à l'Apocalypse, va de la chute à la nouvelle création qui sera merveilleuse. Et entre les deux, il y a l'œuvre, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et de voir comment ce récit se déroule et comment on voit que Dieu déroule son histoire et avoir ce grand panorama de la Bible en vue, ça nous aide à lire la Bible comme il faut, de la bonne manière, et en voyant la gloire et la personne de Jésus.
Ouais, peut-être un mauvais exemple pour illustrer, je ne sais pas si c'est flou ce qu'on a dit sur l'allégorie, mais par exemple, ce n'est pas parce que la Bible nous dit que Jésus c'est le lion de Juda que dès qu'on voit un lion dans l'Ancien Testament, on doit forcément trouver un lien avec le Christ.
Ouais.
C'est peut-être juste un lion en fait dans le récit et ça n'a rien à voir.
Mmh.
C'est un exemple que je donne, mais c'est pas parce que Christ est notre rocher que derrière chaque caillou dans l'Ancien Testament, on doit voir le Christ.
C'est ça. Ou parce qu'il y a du bois sur la croix que dès qu'on voit le bois, voilà, Élie qui jette, ou je sais plus si c'est Élisée, mais quelqu'un qui jette un bois dans la rivière et qui le fait revenir flotter, ah bah ça c'est une image de la croix. Ce serait pas légitime. Ouais.
Le Christ dans le flot de la colère, quoi.
Mmh.
Ouais, non, on pourrait enrichir beaucoup d'histoires comme ça, mais ça serait plus des richesses de notre imagination que du texte, et ouais. Ça serait dommage.
Quelques ressources, Maxime, pour terminer, là, on est pas mal niveau temps. Nos podcasts, ouais. Au fur et à mesure que le temps avance, ils sont de plus en plus longs, mais bon, vous continuez à être là, donc on continue à parler.
Ouais, je pense en premier, un des livres, c'est « Pour une lecture de l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile » par Jacques Blandenier, qui est chez Excelsis, qui n'est pas le plus court qu'on va vous mentionner. Il fait 288 pages exactement, mais que j'avais pas mal apprécié. Il creuse de façon plus large la question. C'est pas uniquement où trouver le Christ, mais où trouver voilà, est-ce que l'Ancien Testament est périmé, est-ce que la chute et l'Évangile de façon générale se trouvent dans l'Ancien Testament, mais il a une partie entière, la deuxième partie du livre, sur le Christ dans l'Ancien Testament, où il aborde les types, les prophéties et l'histoire d'Israël. C'est un livre pas mal, une bonne référence. Il y a aussi Panorama de la Bible. Alors je vais chercher exactement l'édition.
De Vaughan Roberts, enfin on dirait en anglais je pense, Vaughan Roberts.
Ça.
Mais Vaughan Roberts en bon français. Celui-là, si vous en lisez un, si vous en choisissez un dans les ressources qu'on mentionne, je dirais lisez celui-là. Il est vraiment excellent, il est court, 160 pages, et il donne un panorama de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour avoir une vue large de tous les livres de la Bible et comment ils se mettent entre eux. Donc on vous encourage vraiment à le lire.
Ouais, c'est chez Farrell, l'éditeur.
C'est ça. Peut-être une vidéo auquel je pense, là, j'ai pensé alors qu'on parlait, j'avais vu ça sur TPSG il y a quelques années maintenant, ça s'appelle « Meilleur et véritable », c'est une courte vidéo, je pense elle fait 3-4 minutes, un truc comme ça, et en 3-4 minutes on voit comment tous les personnages de l'Ancien Testament pointent vers quelqu'un qui est meilleur et véritable, qui est Jésus lui-même, donc on vous met ça aussi en description du podcast.
Ouais, d'ailleurs je me demande si Laurent n'a pas posté quelques articles sur l'AREB, de théologie biblique, Jésus plus grand qu'Adam, Jésus meilleur que...
Il avait fait Adam, Noé et peut-être l'un ou l'autre. Donc, on vous met ça aussi en description sur le site de la REB. Vous pouvez creuser ça, Laurent qui a fait ça.
Un dernier livre, plus compliqué certainement, mais si vous voulez creuser, que vous n'êtes pas satisfait par les deux premiers, que vous avez encore soif, il y a Le Royaume révélé de l'Ancien Testament à l'Évangile par Graham Goldworthy, qui est dans la collection Théologie biblique d'Excelsis. Donc, pareil, un peu plus compliqué. Je n'avais pas tout compris à l'époque où je l'avais lu.
Mais il n'est pas super long non plus, donc ça se lit quand même.
Ouais, ouais. 150 pages, c'est et il y a quand même, malgré tout, j'avais compris certains trucs où il expliquait les erreurs classiques un peu, je me souviens en introduction.
Ouais.
Donc voilà, c'est encore un livre référence un peu sur ce sujet. D'une façon générale, il y a toute la collection théologie biblique chez Excelsis qui est pareil, qui est complexe, mais qui cherche à retracer des thèmes dans toute l'histoire de la Bible, donc qui peut nous aider à lire aussi l'Ancien Testament.
Super. Excellent, les amis. Bon, moi, j'ai ma quiche qui est prête au four. Je vous l'avais pas dit, les amis, mais j'avais une quiche qui cuisait. Et en fait, j'avais oublié qu'elle cuisait, du coup, au milieu du podcast. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Si vous arrivez à trouver le moment du podcast où je me suis levé pour aller éteindre ma quiche pendant que Maxime parlait, vous gagnez un livre sauf de plus, donc vous pouvez vous les écrire. Mais j'ai vite été l'éteindre parce que j'ai eu un coup de stress que j'avais oublié. Bref, ça c'est le bêtisier qu'on a intégré, le bêtisier Coram Deo qu'on a intégré dans notre podcast. Autre chose, Maxime.
Si on peut terminer, ouais.
Là, vas-y.
Ouais. Ouais, je disais, si on peut terminer quand même sur une note encourageante, c'est que l'Ancien Testament c'est compliqué. C'est vrai qu'au début, on ne comprend pas tout quand on est dans nos premières lectures, etc. Mais franchement, à force d'appliquer ces conseils, de lire des livres, d'écouter des prédications aussi, d'être attentif et régulier dans notre lecture, je pense que tu partages la même expérience, Ben. C'est une lecture qui est enrichissante et de laquelle on s'émerveille de plus en plus.
Ouais.
Donc persévérez, les amis.
Tout à fait. Amen. À plus les amis. Rendez-vous le mois prochain
Ouais,
pour un
on
nouvel
peut conclure
épisode.
sur ces belles paroles.
Yes.